En 1939, Daniel avait 19 ans. Il a commencé ses études en France et puis en Suisse. Il s'est senti appelé à servir le Seigneur d'une façon particulière. Et pour cela, il a voulu continuer ses études aux États-Unis. Alors, pour gagner les frais de son école et de son voyage, Daniel a fait du colportage. Il a vendu des livres chrétiens de porte en porte. Mais ce n'était pas facile parce que c'était une période de tension tout au début de la guerre et ça ne marchait pas très fort. Mais un jour, il a frappé à une porte et cet homme était un homme riche. En fait, c'était le représentant du roi de Roumanie de l'époque qui était dans la ville de Genève et qui était représentant auprès de l'ONU. Cet homme a écouté Daniel, il lui a posé des questions. Il a été impressionné par le travail qu'il faisait, par les livres qu'il vendait, et il lui a demandé de lui expliquer davantage ce qu'il voulait faire. Et cet homme, impressionné par la persévérance, par l'appel que Daniel avait entendu et auquel il voulait répondre, lui a dit « Je vais payer tes études et ton voyage ». Ça, c'était extraordinaire pour lui, alors que d'un côté, il n'arrivait pas à vendre les livres dont il avait besoin pour gagner son écolage. De l'autre côté, voilà que le Seigneur pourvoyait d'une façon extraordinaire à ses besoins. Alors Daniel est allé acheter son billet de bateau. Et pour ceux qui nous regardent par Internet et qui connaissent l'endroit, il a été dans une agence de voyage qui se trouve dans la ville de Genève, tout en bas de la rue du Mont-Blanc, sur le bord du lac, sur le quai des berges. Il y avait là une agence de voyage qui vendait des billets pour aller aux États-Unis en bateau. Avec l'argent qu'il avait, il a acheté un billet, et ce billet lui permettait d'avoir une petite cabine tout au fond du bateau. Daniel voyait la route s'ouvrir, il voyait le plan de Dieu se mettre en place, il sentait qu'il avait répondu à l'appel de Dieu pour le servir. Et il était extrêmement heureux de voir que Dieu dirigeait les choses. Ensuite, il est allé à l'ambassade des États-Unis pour demander le visa pour pouvoir aller étudier. Et on lui a donné le visa, mais il n'avait pas encore le numéro. Il y avait un numéro particulier qui devait arriver peu de temps après, en fait. Mais ça venait pas quand on lui avait promis. Alors il est retourné à l'ambassade, une fois, deux fois, dix fois. Il est retourné constamment et dit mais qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez donné le visa, mais le fameux numéro là qui identifie ce visa, où est-ce qu'il est? Ah, on ne comprend pas, d'habitude ça vient beaucoup plus vite que ça. On va essayer de contacter les États-Unis pour savoir ce qui se passe. Vous savez comment ça se passe dans les administrations, je n'ai pas besoin de vous expliquer, c'était déjà la même chose. Et il attend, et il va tous les jours. Pas de numéro. Arrive le 15 août 1939. Ça, c'était la dernière date pour confirmer qu'il allait véritablement utiliser son billet pour le bateau et faire le voyage. Seulement, ce jour-là, il est encore allé à l'ambassade. Il a dit, écoutez, c'est le dernier jour, donnez-moi ce numéro. Mais on est désolé, on ne comprend absolument pas. On envoie des messages, il n'y a rien qui revient. On n'a pas ce numéro. Votre visa n'est pas encore valable. Daniel est allé à l'agence de voyage et il a dit qu'il ne pourrait pas prendre le bateau, il a laissé sa place. Il était révolté, fâché, il ne comprenait rien dans ce qui se passait. Dieu avait ouvert la voie et tout d'un coup Dieu la fermait. Pourquoi? Comment? Et toutes les questions que vous pouvez imaginer sont venues à son esprit. 3 jours après, le fameux numéro est arrivé. L'ambassade le lui a dit, mais 3 jours après, c'était trop tard. Toutes les places sur le bateau étaient prises. Pas d'autre bateau qui part bientôt. La situation est difficile. Le numéro est là, le visa est là, l'argent aussi, mais il n'y a pas de place pour partir. Alors, premier jour du mois de septembre 1939, le bateau Atania est parti, mais sans Daniel. Daniel qui vivait une épreuve difficile pour sa foi. Et puis, en passant en ville 3 jours après, le matin, les vendeurs de journaux criaient les manchettes des journaux. Il achète un journal et il voit que l'Atania a été torpillée en mer et il est le premier bateau civil qui a coulé alors que le conflit de la Deuxième Guerre mondiale débutait tout juste. Daniel, à ce moment-là, a commencé à comprendre ce qui se passait. Et honteux de la révolte qu'il avait, il s'est abandonné au Seigneur en lui remettant sa vie. Il a pris un bateau plus tard. Mais là encore, quelque chose de bizarre s'est produit. C'était l'époque, en fait, de la mobilisation. À cause du conflit qui se répandait, les pays ont mobilisé toutes leurs forces, et la Suisse aussi, bien qu'elle soit restée neutre dans ce conflit. Seulement, Daniel voulait partir, quitter le pays au moment où on ferme les frontières. Il fallait qu'il ait une autorisation tout à fait spéciale pour ne pas être embauché dans l'armée pour pouvoir continuer ses études. Il y avait un bureau particulier dans lequel il devait aller et on lui a dit « Laisse tomber, regarde la situation, ils ne donneront jamais à quelqu'un la permission de sortir du pays maintenant pour aller aux études alors que tout le monde reçoit son fusil pour aller à la guerre. » Tout le monde l'a découragé, lui a dit « Écoute, attends que la guerre soit finie, fais autre chose, mais tu partiras pas. » Alors Daniel est allé, pas convaincu de ce qui allait se produire. Il est allé au bureau et le responsable du bureau n'était pas là. Il y avait là un jeune remplaçant. Il lui a demandé « J'ai besoin de tel papier, est-ce que vous pouvez me faire ça ?» Le remplaçant, qui ne connaissait pas grand-chose, a pris le papier, a rempli le formulaire, a mis le tampon, lui a donné le papier. En 3 minutes, il était hors du bureau avec son autorisation de quitter le pays. Daniel est parti. Il a pris le bateau, il est arrivé aux États-Unis, il a étudié, il a servi le Seigneur pendant toute sa vie, il a été professeur à l'université d'Andrews. Daniel m'a raconté cette histoire lui-même. Nous aurons l'occasion dans notre église d'avoir la visite de son fils, qui porte le même nom, Daniel Augsbourger, qui viendra dans notre église dans quelques semaines pour faire un week-end de réveil. Daniel m'a dit, après avoir raconté son histoire, il m'a dit... Le Seigneur a un droit sur mon service. Il a un droit sur mon service. C'était une autre manière pour Daniel Augsbourger de dire ce que l'apôtre Paul avait écrit dans un texte que j'aimerais lire avec vous dans la première épître qu'il a écrit aux Corinthiens. Première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 6. Vous connaissez bien ce texte. Nous l'avons cité à plusieurs reprises. Mais dans le contexte de l'histoire de Daniel, il prend une signification particulière. Il prend une signification particulière pour tous ceux qui ont ce texte à cœur. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Et aujourd'hui, nos 4 amis qui sont ici ont choisi de ne plus s'appartenir à eux-mêmes, mais d'appartenir à Jésus-Christ. Beaucoup ici dans cette salle ont déjà fait cette démarche. Mais maintenant, il s'agit de la vivre et de s'y tenir. Je ne m'appartiens pas à moi-même, mais combien de fois dans la vie nous avons agi comme si nous étions notre propre patron. Dans les Écritures et dans l'Ancien Testament déjà, cette parole retentit au travers du prophète Ésaïe au chapitre 43. Dans ce chapitre, il y a une expression de ce même principe que j'aimerais que nous regardions ensemble. Ésaïe chapitre 43, au verset 1, il est dit « Ainsi parle l'Éternel ». C'est donc Dieu qui s'adresse aux gens de ce temps-là et à nous de la même manière en disant « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » C'est un vocabulaire de propriété. Dieu dit « Tu m'appartiens ». Tu n'es pas ton propriétaire, tu n'es pas ton propre patron, tu n'es pas ton propre boss, tu m'appartiens. Et la raison est simple. C'est que je t'ai acheté. Aujourd'hui, la notion de liberté est extrêmement valorisée. Des peuples se battent pour la liberté. Et dans le passé, des hommes, des femmes, des jeunes ont donné leur vie pour préserver leur liberté. Quelqu'un qui ne veut pas être libre provoque la suspicion. La liberté, c'est une vertu capitale. Être libre. Et pourtant, être libre, être indépendant. Quand vous lisez vos Écritures comme il faut, vous vous rendez compte que c'est exactement la définition du péché. C'est exactement ce que le diable a proposé à Adam et Ève. Soyez indépendants de ce Dieu qui vous donne des lois à n'en plus finir. Faites ce que vous voulez. Faites ce que je vous propose. Et ce jour-là, ils ont perdu leur liberté. Dieu nous dit, tu m'appartiens. Et la raison pour laquelle nous appartenons à Dieu, le texte nous le disait tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 6. Car vous avez été racheté à un grand prix. Et ce prix-là, mes amis, nous ne pourrons jamais le comprendre et l'assimiler pleinement. Ce prix-là, c'est non seulement le prix de la croix, mais c'est le prix de l'incarnation, parce que le prix à payer a commencé là. Nous n'arrivons pas à imaginer, parce que nous n'avons pas les moyens de faire la comparaison, mais ce que Christ a laissé pour venir sur la terre est déjà pour Dieu lui-même une humiliation suprême. L'humiliation n'a pas commencé à la croix, elle a commencé à l'incarnation. Et comme si ça n'était pas suffisant, ce Jésus qui est venu pour nous racheter, il va mourir à notre place. Lui qui n'a pas connu le péché. Racheté à un grand prix. Quel grand prix! Et ce que le Seigneur nous offre, c'est ce que nous ne pouvons pas avoir, mais c'est ce qu'il a. Alors il nous le donne, parce qu'il n'y a pas autre chose à faire que de recevoir ce que Dieu nous donne et que nous ne pouvons pas avoir. Nous voulons tous vivre. Et il est vrai que quand on est jeune, on ne pense pas qu'un jour, on fermera les yeux. Quand on est jeune, on a l'impression que la vie est immense et qu'on a l'éternité devant soi. Pour ceux qui ont avancé un petit peu en âge, vous savez qu'il y a des moments où la perspective change d'une façon dramatique. On a l'impression que la vie est terriblement courte. Et ce qui s'est passé il y a 40 ans, c'est comme hier. Ces jeunes qui sont là aujourd'hui, vous les avez vus naître, vous les avez vus petits, petits comme ça, rien du tout. Maintenant, ils sont plus grands que vous, plus baraqués que vous. Mais c'est hier que vous les avez bercés pour les endormir, n'est-ce pas? Le temps, nous n'en avons guère. Et si on a même l'impression que la vie est très grande, très large, et qu'on a une éternité devant soi, vous allez bientôt découvrir que ce n'est pas comme ça. Et tout d'un coup, on réalise que la vie, nous ne l'avons pas. Elle nous est juste prêtée. Et le besoin d'un sauveur, chaque jour, à chaque heure, se fait sentir de plus en plus lourdement. Le besoin d'un sauveur, d'autant plus que les temps sont mauvais. Le Seigneur a des plans. Il a des plans pour chacun d'entre nous. Il va falloir simplement que nous lui donnions les moyens de les réaliser, ces plans qu'il a. Et dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 29, se trouve ce passage extraordinaire où Dieu nous explique son intention à l'égard de chacun d'entre nous. Jérémie, chapitre 29, au verset 11, il est écrit ceci. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. » Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous donner un avenir. Et quand la Bible nous parle d'un avenir, mes amis, vous savez comment il est cet avenir? Infini. Infini. Parce qu'il s'appelle la vie éternelle. Et c'est en réalité le seul moyen pour Dieu de réaliser son plan. Parce que le plan qu'il a pour chacun d'entre nous n'est pas simplement un plan par lequel il va nous guider sur cette terre dans dans le choix de notre métier, dans le choix de notre conjoint, dans le choix de chaque jour. Le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous, c'est un plan qui s'étend sur l'éternité. Pas sur 80, 90 ou 100 ans pour les plus forts. Ça, c'est rien, ça. Son plan est un plan pour l'éternité. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de lui dire, Seigneur, ce plan, s'il te plaît, mets-le en place. C'est ce que nos quatre amis sont en train de faire aujourd'hui. De dire à Dieu, ce plan que tu as, il dépasse l'imagination, je ne sais pas ce que tu en réserves pour moi, mais tu as un plan, et aujourd'hui je voudrais que ce plan tu le réalises parce que j'accepte de ne plus m'appartenir à moi-même, mais d'appartenir à celui qui m'a acheté. Non pas pour faire de moi de nouveau un esclave, mais il m'a acheté pour me rendre libre de nouveau. Alors le baptême devient finalement ce moment essentiel et particulier où je dis à Dieu, Seigneur, je n'y arriverai jamais. Alors j'ai besoin que tu me prennes comme ta propriété, comme ta possession, et que tu réalises ton plan pour moi. Ce faisant, Dieu fait une chose incroyable, qui nous est expliquée dans l'Épître aux Galates. Et je vous propose de regarder ce texte dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3. Galates, chapitre 3. Il se passe là quelque chose d'assez extraordinaire. Et j'aimerais prendre un instant pour y repenser avec vous ce matin. Galates, chapitre 3. On va lire à partir du verset 26. Galates, chapitre 3, verset 26, dit ceci. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Quand on parle de fils de Dieu, on pense à qui ? À Jésus. Mais ici, ce n'est pas de ça dont il est question. Il est dit, « Vous tous qui avez été baptisés, vous êtes devenus des fils de Dieu. » Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Autrement dit, à partir du moment où on accepte d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu nous regarde de la même manière qu'il regarde Jésus, son Fils. Et il nous dit, tu es mon Fils. Tu es un fils de Dieu à ce titre-là. Une fille de Dieu à ce titre-là. Mais j'ai du mal à imaginer que Dieu puisse m'appeler de la même manière qu'il appelle Jésus. Il y a un décalage quelque part. Et pourtant, c'est la réalité que Dieu m'offre le jour où j'accepte que Jésus soit mon sauveur personnel. Trop simple ? Pour nous, en fait, oui. Pour Dieu, le prix a été payé et il a été difficile à payer. Cependant, aujourd'hui encore, nous avons au travers des Écritures cette image d'un Dieu qui, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, nous dit « Je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté. » Alors, tant que cette porte de la grâce est ouverte, tant que le Seigneur a encore des plans à réaliser pour les uns, pour les autres, il est temps de lui dire, Seigneur, ce plan, je voudrais que tu le réalises. Et que tu commences à le réaliser maintenant, et que tu continues le développement de ce plan avec moi jusque dans l'éternité. Ce plan continue au travers de l'éternité, parce que Dieu a un plan pour nous. Il a un projet pour nous dans la vie éternelle. Ce qu'il est, je ne sais pas, il va commencer par le fait de nous donner un nom nouveau. Et derrière ce nom se trouve tout le projet que le Seigneur a pour nous. Alors tout d'un coup, je réalise que si je ne m'appartiens pas à moi-même, j'ai une relation différente avec celui à qui j'appartiens. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de me prouver à moi-même. Qu'est-ce que vous voulez que je prouve ? C'est lui qui a prouvé pour moi la valeur que j'avais à ses yeux. Alors c'est fait. Je n'ai pas besoin d'inventer toutes sortes de choses pour me prouver à moi-même, pour me prouver aux autres, ou pour même me prouver à Dieu. C'est fait. Jésus a fait cela. Alors, dans ce sens-là, je n'ai pas besoin non plus de m'inquiéter de savoir ce qui va arriver, parce que je peux remettre ma vie entre ses mains, comme Daniel l'avait fait dans l'histoire que nous avons racontée, et le Seigneur va diriger, conduire, ouvrir et fermer selon son plan. Et je préfère que le Seigneur réalise son plan dans sa sagesse plutôt que moi réaliser mes plans, parce que je ne connais pas la fin dès le commencement. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. C'est une déclaration de dépendance. Et quand on y pense, dans le contexte biblique, cette déclaration de dépendance, elle est une bénédiction suprême. Parce que de qui aimeriez-vous dépendre? De qui? De vous-même? De ce que les hommes proposent? Ou d'un Dieu qui est capable de descendre du ciel et de donner sa vie pour chacun d'entre nous? N'a-t-il pas fait la démonstration de son amour suffisant pour que nous puissions lui donner carte blanche pour s'occuper de notre vie à chacun en particulier? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Aujourd'hui, ça c'est la bonne nouvelle pour tous ceux qui ont accepté de signer avec lui cette déclaration de dépendance. Et je loue le Seigneur de ce qu'aujourd'hui, quatre jeunes qui ont grandi parmi nous vont signer avec le Seigneur cette déclaration de dépendance, dépendant de Jésus, leur Sauveur. Amen.